Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. 5 chefs d'État ont confirmé leur présence au Forum économique mondial islamique à Jakarta. Selon le président Joko Widodo, le pays a besoin de la stabilité politique et la sécurité. L'Indonésie encourage le financement de charia pour les PME. La pêche illégale empêche la croissance économique régionale. L'existence de peine de mort n'est pas tout simplement un effet dissuasif, surtout si elle est supprimée. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. L'Indonésie accueillera le deuxième Forum économique islamique mondial tenu à Jakarta Convention Center du 2 au 4 août 2016. Ce forum a pour thème la croissance de la décentralisation et l'autonomisation des affaires futures. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, dans la conférence de presse tenue à Jakarta le 28 juillet, a expliqué que quelques questions qui seraient soulevées étaient l'autonomisation et la durabilité accrue des micro, petites et moyennes entreprises, ou PME, au milieu du ralentissement de l'économie mondiale. En outre, on discutera de finances dans le monde islamique, comme la nourriture halal, des vêtements musulmans et le tourisme de charia. Ce forum va inviter les pays qui sont membres de l'Organisation de la coopération islamique ou OCI et jusqu'à présent, 5 chefs de l'État ont confirmé leur présence à l'événement qui sera suivi par 2500 personnes et 110 conférenciers qui se composent des autres fonctionnaires, des PDG, des entreprises et les médias.
Beberapa kepala negara yang telah memberikan konfirmasi.
Plusieurs chefs d'État qui ont confirmé, entre autres, le Premier ministre de la Malaisie, le président de Tadjikistan, le Premier ministre du Sri Lanka, le président de la Guinée et le vice-premier ministre de Jordanie, et environ 8 participants au niveau ministériel ont confirmé de se joindre. Monsieur Armanata Nasir a expliqué à cette occasion le président Joko Widodo tiendra une réunion bilatérale et une conférence téléphonique avec plusieurs chefs d'État et gouvernements qui sont présents. Selon le plan, le président mènera une rencontre avec le premier ministre de la Malaisie, le président du Tadjikistan et le premier ministre du Sri Lanka. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Ratna Marsudi, également prévu de tenir une réunion bilatérale avec le ministre des Industries et des Mines de l'Algérie et le ministre des Relations de coopération internationale de l'Afrique du Sud. Le président indonésien Joko Widodo a dit que l'État a besoin actuellement de la sécurité et la stabilité politique pour soutenir l'accélération de l'application de la politique d'encouragement économique. Maintenant, on nécessaire des changements de politique rapidement, de sorte que l'Indonésie est en mesure d'anticiper la pression économique. Il a souligné dans son discours lors de la cérémonie de clôture de la réunion du dirigeant national de Golkar à Istora Senayan, Jakarta, jeudi soir. Selon le président Joko Widodo, la réalité face au monde aujourd'hui, entre autres l'économie difficile et accompagnée par la géopolitique qui ne se tient pas, par conséquent, tous les pays face à la pression économique. Le président a apprécié les partis politiques qui soutiennent actuellement les politiques gouvernementales, y compris le parti Golkar. Le président souhaite que le parti Golkar continue à soutenir les politiques du gouvernement. Le conseiller auprès du ministère des Finances chargé de la microéconomie et les finances, Andin Hadianto, a affirmé que l'Indonésie mettra l'accent sur l'importance de la finance charia pour le secteur des petites et micro-entreprises dans le deuxième forum économique islamique mondial. Andin Hadianto, dans une conférence de presse de l'organisation du deuxième forum économique islamique mondial, a déclaré que l'Indonésie mettra en évidence le rôle de la finance charia pour les PME d'accéder aux fonds afin que ce secteur puisse apprendre de l'expérience et être exploité son potentiel. L'Indonésie accueillerait le deuxième forum économique islamique mondial à Jakarta du 2 au 4 août 2016, qui sera assisté par le chef d'État, les dirigeants du monde et des conférenciers internationaux. Andin a affirmé que ce forum discutera des problèmes et des solutions qui peuvent combler entre le PME et le secteur de financement charia, comme cela est arrivé en Malaisie. En outre, l'Indonésie soulevera également la question du développement des industries créatives, qui comprenait l'encouragement des activités touristiques halal, l'utilisation de la mode musulmane et la projection des films islamiques. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Susi Pujiastuti, a déclaré que la pêche illégale empêchait la croissance des économies régionales en Asie du Sud-Est. La ministre Susi Pujiastuti, dans le sommet régional des pêches du Pacifique et de l'Asie du Sud-Est à Jakarta, a déclaré jeudi que l'activité de pêche illégale pouvait également impliquer de nombreux autres délits pénals, y compris la traite des personnes, la drogue, même la traite des animaux rares. Par conséquent, selon Susi Pujiastuti, il est très important pour tous les pays de partager des données et d'avoir aussi une bonne volonté, de sorte que chaque pays peut investir la technologie pour surveiller les navires de pêche dans leur zone territoriale. Elle espère que tous les pays peuvent créer aussi un groupe de travail qui place des représentants institutionnels importants pour faire respecter la loi concernée à lutter contre la pêche illégale dans leurs régions respectives. L'imposition de la peine de mort pour les trafiquants de drogue et matériaux de médicaments dangereux doit être considérée non seulement comme précaution et de fournir un effet dissuasif sur les auteurs ou les auteurs potentiels, et il n'a pas été considéré un échec parce qu'il n'y a pas de diminution du crime de drogue. Le membre de la Commission 3, Arsul Sani, a déclaré à Radio République Indonésia le vendredi que le paradigme de la peine de mort doit être souligné. La prévalence de l'abus de drogue en Indonésie est assez élevée, bien qu'il y ait la peine de mort, et il est prévu de sauter la façon spectaculaire quand elle a été abolie. Par conséquent, Arsul Sani a demandé à la société civile de comprendre la raison de la réalisation de la peine de mort dans la législation en Indonésie. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde
partout, vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix de Musée 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voequiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Sekjen Luangten, bonsoir. Après le journal, comme d'habitude, nous vous présentons maintenant le commentaire et pour le titre, la manœuvre politique du post-verdict de la Cour permanente d'arbitrage sur la revendication de la mer de Chine méridionale. Post-verdict de la Cour permanente d'arbitrage international, CPA, au début du mois, la solution du différend en mer de Chine méridionale entre dans une nouvelle phase. Bien que le verdict ne soit pas approuvé par le gouvernement chinois, le Pékin tente d'ouvrir des négociations avec les Philippines. En demandant le soutien des États-Unis, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a demandé au secrétaire d'État américain, John Kerry, que Washington soutenait d'autres discussions sur le différend en mer de Chine méridionale entre Pékin et les Philippines. Le 12 juillet, la Cour permanente d'arbitrage ne justifiait pas la revendication de Pékin qui affirmait que 90% de la mer de Chine méridionale est son territoire. CPA a déclaré que la revendication de la Chine n'a pas de base solide. Les Philippines sont considérées comme gagnées le cas dans la Cour. Pendant ce temps, le gouvernement chinois est considéré comme illégitime. L'attitude politique de la Chine après le verdict de la Cour permanente d'arbitrage a changé récemment. Lors de rencontre son homologue John Kerry dans le Forum régional de l'ASEAN au Laos, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a affirmé que la Chine et l'ASEAN ont convenu de résoudre la question du différend en mer de Chine méridionale. Le ministre Wang Yi, qui néglige le verdict de la CPA, a affirmé que la Chine et l'ASEAN ont trouvé la bonne voie en ouvrant des négociations directes avec toutes les parties concernées. Avant le verdict de la Cour permanente d'arbitrage CPA, le gouvernement de Pékin a accusé les États-Unis d'intervenir et de prendre parti pour les Philippines. Selon Pékin, cela a indiqué que les États-Unis ont déployé sa flotte et a tenu des patrouilles conjointes avec les Philippines dans la mer de Chine méridionale. Presque en même temps avec la manœuvre politique chinoise post-verdict de CPA, les États-Unis, l'Australie et le Japon ont publié conjointement une déclaration en appelant à la Chine et aux Philippines pour obéir le verdict de l'arbitrage qui est juridiquement contraignant. Ensuite, la question est de savoir si l'approche chinoise aux États-Unis par le biais de son ministre des Affaires étrangères diminuera les tensions politiques régionales liées aux différends de la mer de Chine méridionale ou en revanche. En effet, les problèmes ont été résolus lorsque toutes les parties reconnaissent le verdict de la Cour permanente d'arbitrage. Le problème est que jusqu'à aujourd'hui, le Pékin n'a pas reconnu le verdict. l'effort de tenir des pourparlers avec les Philippines sur le différent territorial renforce le reset chinois. Un tel point de vue est susceptible de déclencher la guerre psychologique et peut-être même le conflit ouvert. Serviteur, c'était le commentaire de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Sergem Longten, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec premier camp scout le 29 juillet 1907. Le mouvement scout ou éclaireur en anglais est créé sur l'île de Brunsy dans le sud de l'Angleterre. Le colonel Robert Baden-Powell, héros de la guerre des Boers, entraîne une vingtaine d'adolescents à des jeux de piste. En 1920, le père Sevin a créé les Scouts de France. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale du mouvement scout, OMMS, compte environ 25 millions de membres. L'autre information est sur l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a été créée par l'ONU le 29 juillet 1957. L'énergie atomique est une force qui a le potentiel de doubler, à savoir, en plus d'avoir le potentiel d'une destruction de masse, est également une source d'énergie qui peut être utilisée pour la prospérité humaine. Se rendre compte le potentiel de la double de l'énergie atomique, puis l'ONU a créé une organisation indépendante le 29 juillet 1957. La création de l'Agence internationale de l'énergie atomique vise à superviser et développer l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Avec la mise en place de l'Agence internationale de l'énergie atomique, on a promis une détermination pour aider à résoudre le dilemme de l'énergie nucléaire qui ne doit pas être utilisée pour la mort, mais pour la vie humaine. Nous finissons l'histoire aujourd'hui avec la création de la NASA le 29 juillet 1958. Le président Eisenhower signe la loi instituant la National Aeronautics and Space Administration, NASA, afin de gagner la course de l'espace engagée contre l'URSS. La NASA coordonne les travaux de recherche et d'exploration aéronautique et spatiale. Cette institution est destinée à rattraper le retard sur l'URSS. L'envoi de Sputnik 1 a en effet provoqué un véritable choc aux États-Unis. Le programme lunaire annoncé par le président Kennedy en 1961 provoque le véritable essor de la NASA. Le pari d'envoyer un homme sur la Lune est tenu en 1969. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers fidèles auditrices et auditeurs. Voici donc la mise au point et pour le titre, le remaniement de cabinet du deuxième volume. Le président Joko Widodo a finalement décidé de remanier les ministres dans son cabinet de travail. Cette décision a une raison. Le président veut accélérer le développement de l'économie nationale. Le président Joko Widodo, lors de la conférence de presse pour annoncer les résultats du remaniement au Palais d'État, Jakarta, le mercredi 27 juillet 2016, a déclaré que sa considération du remaniement ministériel est que l'Indonésie doit renforcer l'économie nationale pour faire face aux défis économiques et à la concurrence mondiale. Selon lui, l'achèvement de ces problèmes doit être accéléré. Le président a également souligné que son remaniement ministériel avait été effectué afin que son cabinet soit capable d'ouvrir la zone de l'emploi pour la population, réduire le chômage et améliorer le bien-être. Selon le président, les défis continuent de changer et nécessiter la vitesse dans l'acte. Par conséquent, il espère que le nouveau cabinet peut travailler plus rapidement, progressivement et solide et soutenir mutuellement dans un court temps. Ainsi, les résultats sont évidents dès que possible et peuvent être ressentis par la communauté. Dans une annonce lue mercredi au Palais à Jakarta, le président a dit qu'il y avait 4 ministres qui ont été déplacés vers une nouvelle position. Ces 4 ministres sont Luhut Binsar Panjaitan, qui a déjà servi comme ministre de la coordination politique, juridique et de sécurité, devient le ministre de coordination maritime, remplaçant Rizal Ramli. Bambang Brojonegoro, qui a déjà servi comme ministre des Finances, est maintenant à la tête de l'Agence de planification du développement national, BAPNAS. Sofiane Jalil, qui a déjà servi en tant que chef de BAPNAS, est maintenant le ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement, remplaçant Ferry Moussidan Baldan. Thomas Lembong, qui a déjà servi ministre du Commerce, est devenu le chef du Conseil de coordination d'investissement, BKPM. En plus des ministres et des fonctionnaires de l'État qui ont été décalés vers de nouvelles positions, il y a aussi de nouveaux noms qui sont inclus dans le cabinet du travail du président Jokowi. Les nouveaux ministres dans le cabinet de travail de Jokowi JK sont Wiranto comme ministre coordinateur de la politique, la justice et la sécurité, Budi Karya Sumadi comme ministre des transports remplaçant Ignatius Jonan, Archandra Tahar comme ministre de l'énergie et des ressources minérales remplaçant Sudirman Said, Airlangga Hartanto en tant que le ministre de l'industrie remplaçant Saleh Husin, Muhajir Effendi en tant que ministre de l'Éducation nationale remplaçant Anies Baswedan, Eko Putro Sanjoyo en tant que ministre du développement des régions défavorisées et de la transmigration remplaçant Marwan Jafar, Asman Abnour en tant que ministre de réforme administrative et bureaucratie remplaçant Yudi Krisnandi et Sri Mulyani Indrawati comme ministre des Finances remplaçant Bambang Brojonegoro. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Kadin l'Indonésie, Rosan Ruslani, a bien accueilli le remaniement ministériel du cabinet de travail par le président Joko Widodo. Rosan a affirmé que les choses qui doivent être évaluées par le gouvernement, à savoir chaque politique devrait créer de nouveaux emplois et améliorer la compétitivité. Pendant ce temps, le président du Parti de la Justice Prospère, Jazuli Juwani, espère que le remaniement du cabinet de travail du deuxième volume n'est pas devenu un moyen de partager le pouvoir, mais cela est l'un des efforts du gouvernement pour améliorer les services au public. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
L'Indonésie accueillera le deuxième forum économique islamique mondial tenu à Jakarta Convention Center du 2 au 4 août 2016. Ce forum a pour thème la croissance de la décentralisation et l'autonomisation des affaires futures. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, dans la conférence de presse tenue à Jakarta le 28 juillet, a expliqué que quelques questions qui seraient soulevées étaient l'autonomisation et la durabilité accrue des micro, petites et moyennes entreprises, ou PME, au milieu du ralentissement de l'économie mondiale. En outre, on discutera des finances dans le monde islamique, comme la nourriture halal, des vêtements musulmans et le tourisme de charia. Ce forum va inviter les pays qui sont membres de l'Organisation de la coopération islamique ou OCI, et jusqu'à présent, 5 chefs de l'État ont confirmé leur présence à l'événement qui sera suivi par 2500 personnes et 110 conférenciers qui se composent des autres fonctionnaires, des PDG, des entreprises et les médias.
Beberapa kepala negara yang telah memberikan konfirmasi.
Plusieurs chefs d'État qui ont confirmé, entre autres, le Premier ministre de la Malaisie, le président de Tadjikistan, le Premier ministre du Sri Lanka, le président de la Guinée et le vice-premier ministre de Jordanie et environ 8 participants au niveau ministériel ont confirmé de se joindre. M. Arman Atanasir a expliqué à cette occasion le président Joko Widodo tiendra une réunion bilatérale et une conférence téléphonique avec plusieurs chefs d'État et gouvernements qui sont présents. Selon le plan, le président mènera une rencontre avec le premier ministre de la Malaisie, le président du Tadjikistan et le premier ministre du Sri Lanka. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Ratna Marsudi, également prévu de tenir une réunion bilatérale avec le ministre des Industries et des Mines de l'Algérie et le ministre des Relations de coopération internationale de l'Afrique du Sud. Le président indonésien Joko Widodo a dit que l'État a besoin actuellement de la sécurité et la stabilité politique pour soutenir l'accélération de l'application de la politique d'encouragement économique. Maintenant, il est nécessaire des changements de politique rapidement, de sorte que l'Indonésie est en mesure d'anticiper la pression économique. Il a souligné dans son discours lors de la cérémonie de clôture de la réunion du dirigeant national de Golkar à Istora Senayan, Jakarta, jeudi soir. Selon le président Joko Widodo, la réalité face au monde aujourd'hui, entre autres l'économie difficile et accompagnée par la géopolitique qui ne se tient pas, par conséquent, tous les pays face à la pression économique. Le président a apprécié les partis politiques qui soutiennent actuellement les politiques gouvernementales, y compris le parti Golkar. Le président souhaite que le parti Golkar continue à soutenir les politiques du gouvernement. Le conseiller auprès du ministère des Finances chargé de la microéconomie et les finances, Andine Hadianto, a affirmé que l'Indonésie mettra l'accent sur l'importance de la finance charia pour le secteur des petites et micro-entreprises dans le deuxième forum économique islamique mondial. Andine Hadianto, dans une conférence de presse de l'organisation du deuxième forum économique islamique mondial, a déclaré que l'Indonésie mettra en évidence le rôle de la finance charia pour les PME d'accéder aux fonds afin que ce secteur puisse apprendre de l'expérience et être exploité son potentiel. L'Indonésie accueillerait le deuxième forum économique islamique mondial à Jakarta du 2 au 4 août 2016, qui sera assisté par le chef d'État, les dirigeants du monde et des conférenciers internationaux. Andine a affirmé que ce forum discutera des problèmes et des solutions qui peuvent combler entre le PME et le secteur de financement charia, comme cela est arrivé en Malaisie. En outre, l'Indonésie soulevera également la question du développement des industries créatives qui comprenait l'encouragement des activités touristiques halal, l'utilisation de la mode musulmane et la projection des films islamiques. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Susi Pujiastuti, a déclaré que la pêche illégale empêchait la croissance des économies régionales en Asie du Sud-Est. La ministre Susi Pujiastuti, dans le sommet régional des pêches du Pacifique et de l'Asie du Sud-Est à Jakarta, a déclaré jeudi que l'activité de pêche illégale pouvait également impliquer de nombreux autres délits pénals, y compris la traite des personnes, la drogue, même la traite des animaux rares. Par conséquent, selon Susi Pujiastuti, il est très important pour tous les pays de partager des données et d'avoir aussi une bonne volonté, de sorte que chaque pays peut investir la technologie pour surveiller les navires de pêche dans leur eaux territoriales. Elle espère que tous les pays peuvent créer aussi un groupe de travail qui place des représentants institutionnels importants pour faire respecter la loi concernée à lutter contre la pêche illégale dans leurs régions respectives. L'imposition de la peine de mort pour les trafiquants de drogue et matériaux de médicaments dangereux doit être considérée non seulement comme précaution et de fournir un effet dissuasif sur les auteurs ou les auteurs potentiels, et il n'a pas été considéré un échec parce qu'il n'y a pas de diminution du crime de drogue. Le membre de la commission 3, Arsul Sani, a déclaré à Radio République Indonésia le vendredi que le paradigme de la peine de mort doit être souligné. La prévalence de l'abus de drogue en Indonésie est assez élevée, bien qu'il y ait la peine de mort, et il est prévu de sauter la façon spectaculaire quand elle a été abolie. Par conséquent, Arsul Sani a demandé à la société civile de comprendre la raison de la réalisation de la peine de mort dans la législation en Indonésie. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie en pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiquiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, nous allons présenter le café Kop en provenance de la province d'Aceh. La province d'Aceh est située dans la province de Sumatra et toujours connue pour son café distinctif et délicieux. Le café est produit de base de la province d'Aceh. Et cette province possède de nombreux variants tels que le café Gayo et le café Ule Kareng. Le café Gayo est le type de café arabica étant développé par les producteurs de café Gayo dans les autres plateaux Gayo Aceh et a une saveur distinctive. La production de café arabica de la terre Gayo est le plus grand en Asie. Alors que le café Ule Kareng est le type de café robusta qui est développé dans la région de Pidi et Aceh Ouest. Si vous visitez à Aceh, n'oubliez pas de goûter les cafés de cette région. En général, le café est servi chaud dans un verre ou une tasse de café. Mais il y a des choses intéressantes dans plusieurs magasins de café dans les zones côtières d'Aceh Ouest. Lors de la commande du café, vous serez surprise parce que le café est servi avec un visage envers, vers le bas ou à l'envers. En indonésien, kopi tertelungkup. On dirait que la manière de présenter le café est inspirée du modèle chapeau, ce qui est une marque d'un héros national de la province d'Aceh, Monsieur Tengku Umar, a noté pour que le café reste dans des conditions chaudes et la saveur est maintenue. Le café cup utilise le café robusta qui est broyé grossièrement et ensuite brassé. Lorsqu'agité, le café en poudre reste à flot et le café cup est servi avec le verre face vers le bas. Il est également disponible une paille qui est serrée dans le verre. Le placement de la paille dans un verre de café cup pour faciliter les femmes de boire le café cup. Pour sortir le café à partir du verre, vous pouvez souffler lentement et ensuite l'eau de café sortira à petite plaque. Ne soyez pas inquiète, bien que le café n'est pas filtré à plusieurs fois, la lie des grains de café ne seront pas avalés parce qu'ils flottent sur le verre. Le café cup généralement est servi avec le sucre, le lait concentré sucré et vous pouvez en profiter froid ou bien chaud. Le café cup peut être apprécié dans les cafés sur la côte ouest de Aceh et dans les petits restaurants indonésiens appelés warung. Le prix est relativement pas cher, environ 8000 rupiah jusqu'à 15000 rupiah par verre. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous de nouveau dans un programme L'Indonésie en couleur. Pour l'édition de ce soir, nous vous informons le festival de Buleleng. Bali, lorsque le mot est mentionné, vous imaginez une île avec la beauté naturelle exotique, l'art et la culture intéressante et les gens sympathiques. Avez-vous visité la résidence de Buleleng située sur l'île de Bali? Peut-être vous êtes juste à explorer le sud de Bali comme Kuta, Nusa Dua, Jimbaran, Benoa, Nusa Penida et Sanur. Mais vous ne visitez pas encore Buleleng au nord de Bali. En fait, les destinations touristiques dans cette résidence ne sont pas moins intéressantes avec les lieux touristiques dans le sud de Bali. De plus, le 2 au 6 août, Buleleng organisera le festival de Buleleng avec le thème « Chef de vœux de Buleleng ». Certainement, des activités qui effectueront sont aussi plus grandes, excellentes, plus récentes et plus célèbres à Buleleng. Cet événement annuel promouvera le potentiel touristique de Buleleng en combinant l'art, la culture, l'éducation et l'environnement social. Selon le chef du service de tourisme de Bali, A.A. Agung Yuniarto, dans cet événement, il y aura aussi le défilé de danse typique de Buleleng dansé par 100 danseurs. En outre, on présentera les aliments typiques de Buleleng, les tissus traditionnels et les produits des industries de PME. Selon lui, le festival de Buleleng a été commencé en 2013, L'organisation de ce festival vise à conserver, documenter et promouvoir la culture traditionnelle de Buleleng. Chers auditeurs, cette année, l'organisation du festival Buleleng reste d'introduire les différents types d'arts d'origine du nord de Bali qui ont été reconnus son existence en plus de quelques spectacles d'art moderne comme la performance de la bande et des pièces de théâtre qui étaient populaires auprès du public. Comme on le sait, Buleleng a les danses avec de nombreuses fonctions dans la société, y compris la danse sacrée. À l'occasion du 4e festival de Buleleng en 2016, l'utilisation des endroits ou zones est adaptée au caractère de la danse. La danse sacrée aura lieu au temple, alors que les danses qui ne sont pas sacrées seront effectuées à Sasana Budaya et la scène. Le festival de Buleleng, qui est maintenant devenu un événement annuel de la résidence de Buleleng en province de Bali, devrait être l'attraction spéciale des touristes étrangers et des touristes nationaux. Chers auditeurs, c'est l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous vous présentons une rubrique musicale. Et ce soir, nous présentons des chansons de dangdut. Voici la première chanson intitulée « Cinta Berbuah Duka » chantée par Ike Nurjana.
Cinta, belayan kasih sayang. sungguh tak kusangka cintamu berbuat duka. Kunang-kunang malam tunjukkan aku jalan, ingin ku berlari mencari kekasihku.
Écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta dans le programme musical. Chers amis, c'était la première chanson intitulée Cinta Berbuah Duka chantée par Ika Nurjana. Elle est une chanteuse de dangdut qui a un son distinctif et largement connu par le public indonésien. Ika ne rêvait jamais de devenir une chanteuse professionnelle car elle préfère d'être une enseignante de maternelle. Ika Nurjana est l'une des chanteuses de dangdut connues dans ce pays. Elle est née le 18 mai 1974 à Jakarta. Son premier album, intitulé Ojo Lali en français, N'oubliez pas, a reçu une réponse positive de la communauté dans ce pays. Et jusqu'à présent, elle a publié des dizaines d'albums. Elle était célébrée par la chanson intitulée Terlena ou Endormi. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Ika Nurjana intitulées L'amour et le dilemme.
Kenyaman
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter notre programme musical chanté par Ike Nurjana. Elle a reçu plusieurs prix tels que l'Académie de musique de l'Indonésie pour la catégorie meilleure chanteuse de dangdut 1997-1998 et 1999 et une chanteuse de dangdut la plus célèbre de SCTV en 2002. En 2005, Ike Nurjana a également remporté la Flûte d'or pour la catégorie une chanteuse célèbre. Grâce à dangdut, Ike Nurjana peut visiter de diverses régions, y compris à l'étranger. En 22 février 1998, elle a chanté à Asia Live Dream sous l'invitation de la station de télévision japonaise NHK. Bon, chers amis, nous allons écouter les deux dernières chansons de Ike Nurjana, intitulées « Fleur de Dahlia » et « Fleur de l'amour ». Merci à tous et à bientôt.
Auditrices et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.